Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver comme chaque week-end pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. On va passer cette prochaine heure ensemble et réécouter des extraits de tous les temps forts de cette semaine. Et on commence avec le Loft Music. Mercredi, Yvan Cujus recevait le chanteur Michel Jonas à l'occasion de l'anniversaire de son album La Méouge, Le Rhône, La Durance. Et le chanteur en a profité pour revenir sur sa nomination aux Victoires de la Musique. On l'écoute.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
On vivra libre et digne. On se tiendra par la main comme à nos 18 ans qu'on marchait tous les deux sur des sentiers perdus au début du printemps. Et on pourra toujours raconter des bêtises et dire n'importe quoi. On vivra libre et digne. Et si l'on doit partir un jour après le dernier mot du tout dernier poème, on partira ensemble, tu comprends. On sera jamais trop vieux. Pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux. On sera jamais trop vieux pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux.
La maison de retraite, extraite de La Méouge, Le Rhône, La Durance, le nouvel album de Michel Jonas et cette chanson nominée aux Victoires de la Musique du 12 février. Soudain, on s'aperçut que cette chanson était une immense chanson sur cet album de Michel. Bonsoir Michel Jonas.
Bonsoir Yvan, ça va?
Ça va très bien, ravi de t'avoir, comme à moi chaque
aussi.
Fois.
Mais moi aussi.
Alors, c'est, on pourrait presque parler, d'une chanson sous le manteau, quoi. C'est une chanson qui est dans l'album, évidemment, quasiment vers la fin de l'album. Oui. Et qui, quand même, quand tu l'enregistres, tu étais quand même loin de t'imaginer que cette chanson serait dans la liste des chansons nominées pour la meilleure chanson de l'année, du coup.
En fait, je ne l'imaginais pas, mais pour moi, c'était quand même une chanson très importante. J'aimais beaucoup cette chanson. C'était une des chansons que j'aimais dans cet album, et oui, pour moi elle était très importante, et je pensais que ce serait une chanson très agréable, très forte à chanter sur scène, et c'est effectivement le cas.
Ouais. Avec des arrangements merveilleux, des montées de violon qui sont extraordinaires.
Oui. C'est Jean-Yves D'Angelo,
c'est les arrangements
de Jean-Yves D'Angelo et Manu Katché, et c'est Jean-Yves D'Angelo qui a écrit les cordes.
C'est ça, et qui a co-réalisé donc cet album avec Manu Katché, ton batteur évidemment, et qui est augmenté, j'allais dire, cet album d'une édition limitée de 6 titres bonus. Ça, c'est la rhétorique, tu sais, de la vente d'albums, donc à la édition limitée de 6 titres bonus, avec donc Baby c'est la crise, la version alternative, et puis version... Oui. Confinement des Nuits Tropicales, un peu aussi ça. Initié par Jean-Yves D'Angelo, qui t'a dit, allez, on va se mettre tous là derrière les ordi, on y va, quoi.
Ben, c'est-à-dire, tu sais, ça commence à être vraiment très frustrant, quoi, de pas faire de la musique, de pas se retrouver sur scène. Et là, effectivement, tout le monde a eu envie, on était chacun chez soi, et puis on s'est enregistré, puis on a fait cette nouvelle version de cette chanson des Nuits Tropicales. Mais on avait tellement envie de se retrouver que... Et alors là, ça commence à être un petit peu long, hein, il faut le dire.
Ah ben oui, évidemment. Il y a aussi, je voulais te dire que je t'attends, version revue, piano-voix, une version à l'escale en 2020, c'est-à-dire que, un enregistrement de ce concert, c'était avant le confinement, là, c'est ça, non? C'était quand Michel?
Bah, ça dépend de quel confinement tu
parles. Non, ouais, c'est ça, le 14e.
C'était avant le deuxième confinement, oui. C'était, je ne sais pas, en septembre, peut-être en octobre, je ne me souviens plus, mais bon, j'ai profité de ça pour... je l'avais jamais fait en piano-voix, je n'avais jamais enregistré, elle n'était pas sur un album, cette chanson en piano-voix. Donc j'ai voulu la mettre.
Et la photo effacée, une version inattendue que tu fais toi-même au piano avec Caroline Liborio à la voix.
Oui, c'était une chanson en fait qu'on avait écrite pour son album. Elle voulait enregistrer un album et elle n'a pas été au bout. Et donc c'est comme la maquette de cette chanson, c'est la maquette, c'était pour elle, et puis finalement j'aime beaucoup cette chanson, et moi je l'ai chantée dans mon album.
Ouais. En voix féminine, il y a une autre invitée, je fais un peu le tour, tu vois, avec
Oui.
Zao dans Sombre et la nuit aussi, qui
Zao.
est une jeune voix. Des voix. Qu'est-ce qu'il faut pour une voix féminine, pour qu'elle te séduise, en fait, au point de te donner l'envie de l'inviter sur ton album, Michel Jonas?
Ben, là, dans le cas de Zao, elle a une telle personnalité, puis ça collait tellement bien au style de musique que j'ai composé pour Sombre et la nuit, pour la chanson Sombre et la nuit. J'avais envie de cette espèce d'ambiance un petit peu orientale, etc. Et c'est en fait l'idée de Manu Katché qui m'a dit, mais ça serait peut-être pas mal qu'il y ait quelqu'un qui rappe un peu sur la chanson en arabe. Et donc, on a pensé à Zao pour ça, qui n'est pas vraiment un rap. Elle chante un peu, elle parle, et ça donne, je trouve, une couleur très particulière à cette chanson.
Il est magnifiquement réalisé, cet arrangement aussi de Sombrer la nuit, très inattendu en fait, très
Oui.
caliente en même temps, voilà, très chaleureux, très Paco de Lucía.
Si.
Finalement, Michel Jonas, ça sert à quoi une maison de disques aujourd'hui? Alors du coup, parce que là, tu t'es débrouillé tout seul, j'allais dire. Là, tu te retrouves Victoire de la musique avec une démarche quand même très 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 indépendante, mine de
Oui,
rien.
mais Yvan, moi, je suis mon propre producteur de disques depuis plus de 20 ans. Donc, ça fait
Oui.
très longtemps que je suis mon producteur de disques. Une maison de disques, dans mon cas, c'est quand même, j'en ai quand même besoin. J'en ai besoin parce que c'est une maison de distribution. Tu sais que
Ouais.
moi, je ne suis pas distributeur. Je ne
Oui, oui,
distribue
oui.
pas mes disques. Donc,
Ouais.
voilà, la maison de disques Sony distribue mes disques. Quand
Mais
même,
elle
j'en ai
aurait fait mieux,
besoin.
tu crois, là? Franchement, est-ce qu'elle aurait fait mieux pour Michel Jonas,
Ah, ça,
un
je ne
gros
sais pas, je
label?
ne veux pas juger, j'en sais
Ouais.
rien, mais en tout cas, je suis mon propre producteur depuis pas mal d'années, depuis pas mal de temps, parce que c'est très important pour moi d'avoir cette indépendance artistique que de toute manière j'ai toujours eu. Même quand j'étais artiste au tout début chez Warner, je leur avais dit, attention, je veux être mon propre directeur artistique, c'est moi qui vais choisir mes chansons, mes musiciens, mes studios, etc. Donc il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça, mais pour moi, la liberté est une condition indispensable quand on veut embrasser une carrière artistique.
Ouais. Alors tu parles des musiciens, ils sont toujours présents avec toi, c'est-à-dire que voilà, c'est finalement une démarche quasi collective, à part que tu amènes les chansons, tu écris les chansons, mais après sur scène et même dans la vie, cette
Oui.
présence-là, pour toi, elle est extrêmement forte, j'allais dire puissante, et même motrice, parce que finalement, autant pour le piano-voix avec Jean-Yves que même pour cet album, il y a peut-être quand même une impulsion qui est du côté des musiciens, qui te motive peut-être, qui te dit, allez Michel, on y va maintenant, là, regarde le répertoire, faut faire un truc. C'est ça un peu aussi, ces musiciens, ce qu'ils t'apportent quelque part?
Ben, c'est-à-dire, évidemment, il y a Jérôme Regard, il y a Hervé Brault, il y a les cuivres, il y a Michel Gaucher, il y a tout le monde. Il y a les techniciens aussi, exactement. Bien sûr que, si tu veux, ça ne suffit pas d'être ensemble sur une scène pour faire de la musique et de jouer la même partition ensemble. Il y a quelque chose qui est beaucoup de l'ordre du subtil, qui est un lien qui unit les gens. Et ce lien-là, s'il n'est pas là, alors on peut jouer ensemble, on peut faire de la musique, on peut, mais ça va être peut-être un peu mécanique, c'est-à-dire ça va être un petit peu par devoir. S'il n'y a pas ce lien affectif, je dirais presque spirituel, enfin émotionnel entre les gens, et c'est ça qu'on s'apporte. Moi, je me considère comme un musicien, hein, au service d'une chanson.
Bien sûr.
Donc, et c'est ça qu'on s'apporte tous.
Le meilleur de Sud Radio Trina McDean.
Yvan Cujus et ses invités vous donnent rendez-vous de 20h à 21h en direct dans le Loft Music. Allez, restez sur Sud Radio. On va revenir très vite avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix qui ont débattu sur l'efficacité du président Emmanuel Macron et avec les invités de la matinale qui se sont penchés sur les cyberattaques qui se multiplient contre les hôpitaux. À tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio Trina McDean.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Comme tous les week-ends, je vous propose qu'on écoute ou réécoute ensemble des extraits des émissions marquantes de cette semaine, comme c'était le cas lundi dans Les Vraies Voix. Lors de leur grand débat, Philippe Rossi et ses chroniqueurs Philippe Bilger, Christine Bouillot et Philippe David, ainsi que leur invité Jérôme Sainte-Marie, ont débattu sur le président Macron et ils se sont posé la question de savoir s'il pouvait faire quelque chose de concret d'ici 2022. Écoutez.
Emmanuel Macron est élu président de la République française avec 65,5% des voix.
Nous sommes en guerre. Je me fiche de la prochaine élection. Je veux réussir ce mandat.
Les scientifiques lui ont trouvé un nom de code, 2019-ENCOV.
Je veux réussir ce mandat parce que je veux que notre pays réussisse, parce que je l'aime plus que tout.
Un mystérieux virus à l'origine d'une épidémie en Chine qui inquiète le monde entier.
Peut-être que je pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien.
Il est 20h. Voici le nouveau président de la République.
Nous sommes en guerre.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
À part gérer la crise du Covid, Macron pourra-t-il faire quelque chose avant 2022? Eh bien, on en débat avec nos vraies voix, Françoise Degois, Christine Bouillot, Philippe David, Philippe Bilger. Et notre invité, c'est Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir, Jérôme Sainte-Marie.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Bonsoir, bienvenue dans Jérôme. Les vraies voix. Jérôme, bonsoir, fondateur bonsoir. De la société d'études Pollingvox et puis auteur du livre Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme. C'est aux éditions du Cerf. Difficile d'imaginer, Jérôme Sainte-Marie, qu'on puisse réformer d'ici quelques... Enfin, pendant au moins 6-8 mois, voilà, il reste 6-8 mois de vraies réformes avant l'élection 2022. Ça va être compliqué hein, entre le confinement, le déconfinement, le couvre-feu, la campagne de vaccination, Jérôme Sainte-Marie.
Mais pourquoi donc? Pourquoi donc on ne pourrait pas réformer dans les prochains mois? Il n'y a pas de mouvement social possible. Il n'y a pour ainsi dire pas de possibilité de faire grève ou de manifester. L'opposition est divisée sur la question même des réformes. Une bonne partie de la droite, mais aussi de la gauche, les approuve dans leurs principes et ont mené des similaires, y compris quand Emmanuel Macron appartenait à un pouvoir de gauche. Et donc, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne pourrait-il pas réformer ? Et après, autre question, pourquoi aurait-il intérêt à ne pas réformer ? C'est très douteux. Pour deux raisons. D'une part, il a été élu sur un projet, comme il le disait lui-même, et ce projet, c'est un projet ni gauche ni droite, plutôt et gauche et droite, de pousser au maximum les réformes. Et de fait, ces réformes ont eu lieu, durant les deux premières années du quinquennat. Et ensuite, il y a maintenant un risque pour lui de se présenter lors du prochain scrutin sans avoir un bilan de réformes particulièrement enviable. Ça pourrait donner des idées à d'autres, à Édouard Philippe ou à d'autres personnes, qui diraient, ben regardez, moi je serais encore plus réformateur que n'allait été Emmanuel Macron. Et à ce moment-là, il aurait le soutien de gens issus des réformateurs, si j'ose dire, des libéraux en fait, et des européistes venus de la droite et également venus de la gauche.
Donc il a tout intérêt à poursuivre les réformes, Emmanuel Macron.
Il a tout intérêt. Je ne vois pas en quoi la pandémie l'empêcherait de le faire.
Alors, Françoise Degois, vous êtes d'accord avec Jérôme Sainte-Marie?
Non, pas du tout. Bien sûr que non. Ça va être que de l'affichage. Et Jérôme Sainte-Marie le sait très bien. D'ailleurs, vous lui donneriez un conseil pareil à Emmanuel Macron. Ce serait pour obtenir l'inverse, non? Parce que c'est complètement... Sur quoi peut-il réformer aujourd'hui Emmanuel Macron? Il y a deux choses sur lesquelles il peut réformer. Il faut d'abord s'entendre sur qu'est-ce qu'une réforme. C'est un changement de système. Passer des lois, ça ne signifie pas réformer.
Oui, c'est vrai.
Passer des lois sur l'écologie, ça ne signifie pas réformer. Passer des lois sur le séparatisme, ça ne signifie pas réformer. Ça ne sera jamais considéré comme des réformes. La réforme, c'est l'assurance chômage, les deux en souffrance, et les retraites. On est bien d'accord. C'est ça, les réformes. Imaginez bien, Jérôme, mon cher ami, imaginez bien qu'Emmanuel Macron se mette en tête de faire passer la réforme des retraites, même si elle est en cours encore, elle est suspendue. Ou la réforme de l'assurance chômage. Vous savez très bien que tout est question. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il est vraiment planté pour ce qu'il a dans la besace sur une éventuelle réélection, même si on n'est jamais réélu sur un bilan, mais quand on n'en a pas, c'est assez compliqué. Mais il est inimaginable aujourd'hui, à l'heure où on parle, en tout cas, de faire passer une réforme de l'assurance chômage dans l'opinion publique et une réforme des retraites. Parce que c'est inacceptable. Ça fait partie des choses qui ne seront pas acceptées socialement. Elles ne l'étaient pas avant, les retraites acceptées socialement. Vous pouvez les passer aux chausse-pieds. Hein. Vous pouvez les passer aux forceps avec une majorité.
Surtout si on interdit les rassemblements,
les
manifestations.
Mais c'est pas le problème.
C'est pas le problème.
Ce que ça laisse comme rancune dans la vie des gens, je vous rappelle qu'on est sorti, on est rentré dans le Covid, on avait encore des manifs toutes les semaines sur les retraites. L'assurance chômage, il est urgent d'attendre. Vous allez avoir des millions de gens en plus au chômage. C'est inaudible. Et même si vous n'avez pas de manifestation, je trouve que votre point de vue est un peu cynique. Bon. Après tout, on peut y aller, on n'a pas le droit de faire de manif.
Voilà. Philippe Bilger, donc c'est impossible. On va laisser Jérôme Sainte-Marie répondre, puisque vous êtes d'accord avec Françoise, Philippe.
Oui. Ce qui, cette volonté de réforme jusqu'au bout, démontre d'abord que, me semble-t-il, Emmanuel Macron a une pleine conscience de ce que son mandat a eu d'exceptionnel à cause des crises qu'il a subies, dont il n'est pas toujours responsable et qui impose quelque chose de substantiel dans son bilan. Et deuxième élément, est-ce que, au fond, les réformes qu'il avait prévues et qui n'ont pas pu être mises en œuvre à cause notamment de la Covid-19 auront une chance de passer devant le pays et démocratiquement, alors que précisément cette gestion de la crise a montré une grande fragilité du gouvernement et donc en quelque sorte il aura encore moins de crédibilité qu'à l'époque.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et rendez-vous dès lundi de 17h à 19h avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix. On continue avec un extrait de la matinale de lundi dans le petit déjeuner de l'actu. Patrick Roger et Cécile de Minibus recevaient Stéphane Duguin, président de l'Institut Cyberpeace, spécialiste de la lutte contre la cybercriminalité. Et ensemble, ils se sont intéressés aux cyberattaques qui se multiplient contre les hôpitaux. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bonjour. Oui, bonjour à vous. Avant d'avoir un médecin avec le professeur Kayat dans un instant, on va voir comment entretenir sa santé. Hein. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions au 0826-300-300. Ce qui est assez incroyable, on en parle de cette des cyberattaques et de cette cybercriminalité qui va jusqu'à s'attaquer donc aux hôpitaux. Quel est l'intérêt, Stéphane Duguin ?
Merci de nous inviter. Oui. Déjà, l'intérêt, c'est une opportunité. Toutes les crises, absolument toutes les crises, qu'elles étaient sanitaires ou autres, depuis la crise Ebola jusqu'à Charlie Hebdo, en passant par le Bataclan, ont été utilisées par les criminels, les cybercriminels, en vecteur d'attaque. Le problème aujourd'hui avec la chaîne de la santé, la chaîne du soin, la chaîne d'approvisionnement de la santé jusqu'à l'hôpital, c'est qu'elle est non seulement la victime d'attaques de groupes criminels, mais également la victime d'attaques d'acteurs étatiques. Donc c'est la somme de tous les pires.
C'est-à-dire d'acteurs étatiques, là vous pensez à quel
état ? C'est-à-dire de groupes qui sont proches d'État. On a vu des attaques qui étaient proches de groupes en lien avec la Chine, en lien avec la Russie. Vous avez d'autres responsabilités de l'État, vous pouvez voir ça dans l'autre sens. L'État a une obligation de protection de l'hôpital. C'est-à-dire que lorsque des groupes criminels sont identifiés comme étant auteurs de faits, il est important de pouvoir mettre en place les armes de la justice ou de pouvoir procéder aux extraditions ou d'échanger l'information pour les enquêtes. Donc l'hôpital en bout de chaîne, et les gens, vous et moi, qui sommes en besoin de santé aujourd'hui, se retrouvent victimes de cette équation un peu problématique. D'un côté, l'hôpital a peu de ressources, peu de moyens pour se défendre, parce que trop occupé aujourd'hui, évidemment, à la santé. D'un autre côté, son infrastructure technologique est extrêmement complexe. Il fait face à des gens qui sont soit organisés d'un point de vue criminel parce que c'est une motivation lucrative, c'est pour faire de l'argent. Je bloque un hôpital, je demande de l'argent, l'hôpital n'a pas le temps de se débloquer, donc paye. Ou alors je vais jusqu'à la méthodologie abjecte de voler les données des patients. Et si l'hôpital ne paye pas, je menace patient par patient afin de récupérer de l'argent. Sinon, vos données de patients se retrouvent sur Internet. Et de l'autre côté, il y a des groupes qui sont proches de l'État ou qui travaillent pour les États, qui, eux, coordonnent des campagnes de désinformation contre l'accès aux soins, l'accès aux vaccins, ou facilitent les activités de groupes criminels. Oui, donc c'est une équation assez complexe.
Bah oui, c'est arrivé l'autre jour. Enfin, ça arrive souvent dans beaucoup d'hôpitaux. L'hôpital de Narbonne, par exemple, en a été victime. Ils vont jusqu'à payer des rançons. Alors, les centres hospitaliers, ils sont coincés à ce point-là ou pas ?
Il faut comprendre que ça s'inscrit dans une difficulté plus profonde. Vous êtes en charge d'un hôpital, vous devez faire en sorte que votre service tourne. Vous êtes en pleine crise de la Covid-19. Il faut savoir que moins de 1%, en gros 1 à 2% du budget hospitalier est alloué à la cybersécurité. Lorsque l'attaque arrive et que les patients arrivent, le choix est complexe. Si vous n'êtes pas organisé en amont, il est très difficile même d'avoir le choix. C'est assez étrange, vous voyez qu'au pic du premier confinement, il y avait une attaque par jour que l'on pouvait documenter dans le monde sur le secteur hospitalier. Imaginez si des groupes armés, chaque jour, à ce moment-là, entraient dans les hôpitaux, cassaient les ordinateurs contre de l'argent, je pense que la communauté internationale réagirait un tout petit peu différemment.
Ouais. Mais si on va plus loin, parce que bon, ça s'est arrivé dans certaines villes aux États-Unis, la ville de Baltimore a été cyberattaquée et stoppée pendant des jours et des jours, est-ce que ça veut dire que c'est une nouvelle forme de terrorisme ?
Ce n'est pas le terrorisme est vraiment lié à la motivation idéologique ou à la volonté de déstabiliser un État. On se retrouve vraiment avec deux grands modes opératoires. Vous avez un mode opératoire criminel qui est je cherche de l'argent et je prends toutes les méthodes possibles et imaginables avec une innovation criminelle sans limite. Vous avez la simple extorsion, j'attaque un hôpital, vous payez, si vous ne payez pas, vous ne récupérez pas votre système. C'est passé par la double extorsion, si vous ne payez pas, je fuis de vos systèmes sur Internet. Et maintenant, on a la triple extorsion où si vous ne payez pas, je vais aller voir les patients. Directement, et je vais leur demander de l'argent. Ouais. Le deuxième mode opératoire, c'est le cyberespionnage. Le fait que des centres de vaccins, des laboratoires de recherche soient cibles de cyberespionnage, donc en fait une cible d'attaque qui amoindrise la sécurité de leur système, a un impact sur toute la chaîne d'approvisionnement.
Ça veut dire qu'on pourrait à un moment donné bloquer toute la chaîne médicale, c'est-à-dire que tout ce qui aujourd'hui fait que, enfin, tout le modèle soignant en fait.
En fait, il faut bien comprendre, et c'est peut-être la difficulté de la réponse contre la menace cyber sur l'hôpital depuis des années, c'est qu'au bout du bout, celui et celle qui est impacté, c'est vous et moi. C'est attaquer un hôpital, c'est attaquer la vie humaine. Il y a des études assez récentes qui démontrent que lorsqu'un hôpital a été attaqué, si vous voulez vous faire soigner dans ce même hôpital des mois ou des années après, et si vous êtes en situation d'urgence, vous avez plus de chances de ne pas être soigné correctement. Parce que l'hôpital a dû mettre en place des procédures qui parfois ralentissent la prise en charge, où les gens sont partis, où il y a des problématiques financières suite peut-être à des procès. Et du coup, la qualité du soin descend.
Oui. Et Stéphane Duguin, comment fait-on pour vraiment répliquer ? Est-ce qu'on est armé parce que ça vient de ces criminels qui parfois s'appuient sur des États, mais parfois ce sont des organisations entre guillemets mafieuses qui vont s'attaquer à des hôpitaux, mais d'autres organisations, des villes, des entreprises. Est-ce que l'État a un système en place pour pouvoir répliquer ? Ou est-ce qu'on doit s'appuyer uniquement sur des entreprises privées pour répliquer également ?
Alors, c'est un domaine où c'est un peu comme pour combattre la Covid-19, c'est un peu tous responsables. C'est-à-dire que nous, déjà en tant qu'utilisateurs de l'Internet, si nous mettons en place des gestes barrières numériques, on peut ne pas se retrouver dans la chaîne de quelqu'un qui va vous faire suivre l'email rigolo ou l'image rigolote, qui en fait est pleine de virus et qui va se retrouver à attaquer le réseau. Donc, c'est le premier niveau de responsabilité. Ouais. Au-delà de cela, il y a une responsabilité de l'industrie. L'industrie met en place des solutions techniques pour le secteur hospitalier. Dans cet exemple, ces solutions doivent être sécurisées ou aisées à sécuriser. Donc, il y a une responsabilité à ce niveau. Pourquoi l'État a une responsabilité supplémentaire ? Parce que c'est le seul acteur qui peut agir au niveau réglementaire, au niveau judiciaire, au niveau éthique et au niveau normatif, au niveau international. Donc c'est pour ça que l'État a plus de responsabilités.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Patrick Roger et Cécile de Minibus et leurs invités, rendez-vous lundi de 7h à 10h dans le Grand Matin Sud Radio. On va se retrouver dans un instant avec André Berkoff et son invité, le commandant Vincent, auteur d'une enquête au cœur des réseaux terroristes. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Merci pour votre fidélité. Avant de retrouver André Berkoff dans tous ses états et son invité, le commandant Vincent, on va s'écouter un tube planétaire que l'on doit à l'un des plus grands groupes de tous les temps, le groupe Police. Numéro 1 des ventes de singles au Canada, aux États-Unis, en Irlande et au Royaume-Uni. Il a remporté le Grammy Awards de la chanson de l'année et pourtant, il a été écrit par Sting en une demi-heure seulement. Un sacré génie qu'on va se faire le plaisir d'écouter tout de suite. Voici Every Breath You Take sur Sud Radio. We'll be right back. Every Breath You Take dans le meilleur de Sud Radio, titre incontournable du groupe Police, extrait de l'album Synchronicity. Allez, on poursuit maintenant avec une émission que vous aimez tout particulièrement sur Sud Radio, c'est André Bercoff dans tous ses états. Mardi, l'animateur recevait le commandant Vincent, venu présenter son livre « Traquer la terreur », une immersion au cœur des réseaux terroristes. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Oui, bonjour, commandant Vincent.
Bonjour, monsieur.
Justement, ce livre, je l'ai reçu et il m'a tout à fait intéressé, je veux dire, voire passionné, parce que pour la première fois, vous ne faites pas justement une chronique de ce que c'est, enfin, de votre expérience. Ce n'est pas un témoignage personnel, encore que vous avez été un des acteurs de cette période, vous l'êtes encore. Mais c'est d'expliquer de manière à la fois technique, de manière analytique, de manière précise, comment on peut traquer ce terrorisme. Et on sait que depuis des années, alors certains nous disaient, il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme, ce qui ne paraît pas peut-être la phrase la plus heureuse. Non, il faut le combattre. Et vous, vous faites partie dans l'armée. Alors vous me direz, vous faites partie de l'armée. Enfin, vous êtes...
Je suis toujours au sein des armées.
C'est ça. Et, pardon. Et donc vous contribuez justement à traquer le terrorisme, au contre-terrorisme. Alors, je voudrais d'abord qu'on s'explique, qu'on en parle. Au fond, aujourd'hui, le terrorisme, bon, on en a parlé, on le connaît, mais vous, vous dites aujourd'hui, à la lumière de votre expérience, et vous ne parlez pas seulement que du terrorisme islamiste, vous ne parlez pas seulement de l'Afghanistan, de ce qui s'est passé dans notre pays, et Dieu sait s'il y a des choses à dire, vous parlez aussi de l'exemple de l'IRA et autres, et vous dites qu'au fond, et c'est très intéressant dans votre livre, vous dites qu'il faut... Et ça, on va parler les solutions sécurité, emploi, éducation. Mais surtout, je voudrais vous faire réagir sur, d'abord, le terrorisme islamiste. Vous savez qu'André Malraux avait écrit en 66, il disait « L'islamisme, c'est un communisme du désert ». Et vous, vous référez un peu à Mao et à Lénine, alors que ce n'est pas du tout la même idéologie. Mais comment ça se construit, alors, ces unités terroristes ?
Ce qu'il faut bien voir, c'est que là, quand on observe l'acte terroriste, c'est un peu comme un iceberg. Mmh. Il y a, on va dire, la partie absolument dramatique, atroce, des gens qui sont tués, ce qui après est répercuté par un message, soit par le groupe terroriste lui-même, qui accompagne toujours une action psychologique, une action de propagande, ces actions, mais aussi par les médias qui relatent les faits bruts tels qu'ils sont. Et quand on va un peu en dessous, qu'est-ce que nous voyons ? Nous allons voir que finalement, cette action terroriste s'inscrit dans un processus. Mmh. Alors derrière la petite cellule qui va mener son attaque, on peut prendre l'exemple de Mumbai. En Inde, à Bombay.
Oui, en Inde, oui.
Voilà, nous
oui.
avons en novembre 2008, 5 binômes, donc 10 personnels, du groupe terroriste Lashkar-e-Taiba, qui est une succursale, une filiale d'Al-Qaïda, qui va conduire durant à peu près 3 jours... des prises d'otages multiples après avoir réalisé des massacres de masse sur un petit périmètre de 3 km sur 1,5 km.
Ouais, l'hôtel Taj Mahal, notamment.
C'est bien ça.
Etc.
Tout à fait. On voit qu'il y a différentes équipes. Une équipe qui est chargée de faire l'assaut, une équipe de terroristes, une équipe de soutien qui va préparer ces gens-là, les conditionner, une équipe de planification, d'autres qui vont les encadrer. Et puis après, évidemment, une équipe de communication dont le but va être. De faire un retentissement médiatique pour que ce groupe terroriste apparaisse comme un acteur de sa scène internationale. Mais justement, cet attentat n'a pas été mené complètement au hasard. Quand vous regardez la frise du temps, oui. Il s'inscrit juste sur le champ diplomatique. Au moment où une tractation très importante avait lieu entre Washington et Islamabad, entre les États-Unis et le Pakistan,
oui.
Afin de pouvoir mener une coordination dans la traque des groupes terroristes transnationaux, type Al-Qaïda, et certains mouvements facilitateurs, comme les talibans. Bien évidemment, cette action va un peu paralyser, faire des soubresauts entre l'Inde, le Pakistan, et par effet de ricochet, directement les États-Unis. Et si l'on reprend toute cette structure, on va dire, de formation, le terrorisme s'inscrit dans différentes phases, qui reprennent ni plus ni moins que le phasage qu'avait théorisé Trotsky dans son concept de la guerre révolutionnaire, qui est un, ni plus ni moins qu'un mouvement, on va dire, de contournement des offensives massives traditionnelles, clausewitziennes, pour pouvoir...
S'attaquer à la périphérie par petits groupes, etc.
C'est bien ça, tout à fait.
Et alors, et vous dites Trotsky et aussi Mao. Mao qui disait les campagnes et les villes. Enfin, la théorisation attaquée par les campagnes et puis aller s'en prendre aux villes.
C'est bien, c'est bien. Si vous voulez, on a exactement cette volonté de contournement qui n'est pas nouvelle. Cette guérilla, cette petite guerre n'a rien de nouvelle. Comme j'explique dans le livre, on la retrouve dès la guerre des Gaules. On la retrouve après avec la guérilla menée par Duguesclin contre les Anglais en Bretagne. On la retrouve avec la Vendée. C'est les Espagnols contre les troupes napoléoniennes durant le Premier Empire, etc., etc. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, que l'on découvre. Après, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir justement cette volonté de frapper des cibles civiles, telles que l'ont montré Trotsky, telles que l'ont montré Mao, et après, telles que l'on voit aujourd'hui décliner au sein des groupes islamistes, tels que Al-Qaïda ou Daesh, tout simplement parce que les services spéciaux de certains pays arabes qui travaillaient au profit de l'URSS dans le champ de la guerre froide ont été formés à l'école de l'URSS, ont été formés à l'école de ces pays satellites, et qu'ils ont pu, comme ça, avoir des compétences en guerre clandestine, en assassinat ciblé.
Alors, justement, pourquoi, alors, dans sa théorie qui remonte, comme vous dites, à loin, mais parlons de Trotsky, de Mao, pourquoi frapper les civils? C'est pour l'impact que ça peut avoir? C'est pour le retentissement médiatique et autres? Vous dites frapper les civils, justement. C'est une autre guerre, la guerre asymétrique dont vous parlez.
Eh bien, il y a deux parties. La première, c'est qu'effectivement, frapper des civils, c'est ce qu'on appellerait en jargon technique une cible molle. C'est extrêmement lâche. Excusez-moi l'expression, c'est absolument dégueulasse. Parce que le civil, par essence, n'est pas formé, n'est pas armé pour se protéger face à cette menace. On a pu le voir directement en Irak, par exemple. Lorsque Al-Zarqawi, j'en parle dans mon livre, dès 2003, va frapper les Nations Unies, va frapper différentes ONG, etc., etc., son but, c'est bien évidemment de s'attaquer à des gens qui ne sont pas en mesure de riposter facilement. C'est l'essence même. Le deuxième impact, justement, de cette volonté de frapper des populations, c'est ce que derrière, le but, c'est de faire plonger la population dans le combat. La population, comme le dit un des grands penseurs du terrorisme islamiste, Abou Bakr Nagji, qui a écrit « Management de la sauvagerie ».
Qui était proche de Ben Laden, je crois.
Tout à fait. Oui, c'était un peu le Manikampf, si vous voulez, des islamistes, pour faire très très simple. Il dit qu'il faut absolument de gré ou de force plonger cette population dans les combats, dans la guerre. Et par ce biais-là, la population va soit adhérer volontairement à notre doctrine, et c'est bien ce qui s'est passé en Irak dans les années 2003 à 2005, etc., etc., puis qu'on revoit après que Daesh, dans le segment 2012-2015,
comprend ça, oui.
Mais aussi après, terroriser les esprits pour que les parties de la population civile qui souhaiteraient contrecarrer et s'opposer idéologiquement parlant à cette menace islamiste, soit elle-même, on va dire, submergée, et n'est pas autre choix que de collaborer.
Vous les submergez ou un peu frappés de peur en disant « il faut qu'on collabore, sinon on va être tués nous-mêmes » Est-ce que les faits, après, parlons pas de l'effet médiatique, mais est-ce que les faits, parce qu'on va parler aussi de la France après des attentats, bien sûr, et est-ce que les faits est de dire « on va montrer qu'on est très fort, qu'on peut massacrer où on veut ou presque, et que comme ça la population, eh ben, la peur, le management de la peur, enfin ». Et ils vont non pas se ranger de notre côté, mais au moins ils ne vont pas nous contrecarrer.
C'est exactement ça. On le revoit exactement dans les attentats de la gare d'Atocha en Espagne, qui ont eu lieu, si la mémoire est correcte, en mars 2004, au cours desquels, justement, différentes cellules terroristes affiliées à Al-Qaïda à Ben Laden vont, trois jours avant les élections parlementaires en Espagne, frapper cette gare de Madrid afin de voir la population aux élections électorales s'opposer au gouvernement espagnol qui souhaitait maintenir les troupes en Irak.
Le meilleur de Sud Radio. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pendant une heure encore pour commenter l'actualité avec vous, avec aujourd'hui Nelly Garnier, bonjour. Vous êtes conseillère de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris. Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, bonjour.
Bonjour Valérie.
Mathieu Alterman, journaliste. Votre dernier livre, Femme fatale. Et oui, on cite les livres de nos invités.
Un nouveau livre en mois d'avril.
Quai des Brunes et Alexis Poulain, qu'on a entendu ce matin sur Sud Radio pour l'édito politique, comme tous les mercredis, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne.
Bonjour.
Bonjour à vous. On va parler toujours du Covid. Juliette Ruffol, qui travaille avec moi, me rappelait cette phrase dans Le Grand Blond où il y a Bernard Blier qui dit « on tourne en rond ».
On tourne en rond, merde.
C'est ça, merde, il y a le merde. Donc là, c'est merde, on tourne en rond, et on parle encore du Covid, mais avec des variantes, comme le virus. On va parler des étudiants. On commence seulement à s'inquiéter de leur situation. Vous donnez des cours, Mathieu Alterman, donc vous êtes bien placé pour nous en parler. Les écoles, on a un petit peu de mal à comprendre. Est-ce qu'il faut les fermer? Est-ce qu'il ne faut pas les fermer? Emmanuel Macron qui remonte dans les sondages. Ça, c'est effectivement une surprise. Et puis, Alain Finkielkraut, mais on va en parler avec vous, Nelly, dans un instant. Alors, commençons avec Alexis Poulain.
Moi, c'était un coup de cœur, en fait, sur la découverte de la biodiversité des réseaux sociaux. Eh oui, finalement, il n'y a pas que les dinosaures, Facebook, Twitter. On découvre Parleur, Gab, Telegram, Signal. Incroyable. On peut signer des conditions générales d'utilisation qui ne demandent pas de savoir la couleur de votre caleçon. C'est le cas, par exemple, de Signal ou d'autres choses. Et ça fait plaisir, et tant mieux. Alors, on est loin, évidemment. Facebook, Twitter, c'est des milliards d'utilisateurs. Là, on parle de quelques millions, quelques milliers même. Mais ça arrive, c'est très bien. Moi, je trouve qu'on défend la biodiversité.
En fait, WhatsApp, c'est un peu tiré une balle dans le pied hier avec ces nouvelles conditions d'utilisation.
Et je crois que c'est Telegram a récupéré 500 millions d'utilisateurs en quelques jours. J'y suis sur Telegram. Vous pouvez y aller, c'est très bien.
Je veux juste rajouter un truc un peu rigolo sur l'histoire. C'est que le problème, c'est quand vous migrez sur Telegram, ça débloque les contacts que vous aviez bloqués sur WhatsApp. Donc vous vous retrouvez avec des dizaines de gens qui vous ennuyaient depuis je sais pas combien de temps, qui reviennent. Moi, j'ai quand même eu 12 messages d'un coup. Coucou. Je dis, non, pourquoi eux? Faites attention, ils sont débloqués.
Moi, longtemps, alors j'ai pas vu ça, mais c'est vrai que tu vois les gens arriver. Machin est arrivé.
Et on a l'impression d'arriver un peu en résistance. Effectivement, il y a des messages, bienvenue, enfin.
Parce que c'est devenu ça, parce que mine de rien, alors Trump, c'est autre chose, il y a eu l'incitation, il y a eu le Capitole, il ne faut pas minimiser ce qui s'est passé. Mais la façon dont ça a été géré par ces géants du numérique qui décident, 4 ans après, parce que Trump a perdu, finalement de dire, bon, maintenant c'est fini, on ferme le robinet. Ils auraient pu le faire avant, il y a eu déjà beaucoup de choses où ils auraient pu faire ça. Mais c'est vraiment assez lâche comme méthode, et ça en dit long aussi sur le danger, parce que qui sera le prochain ? Si c'est eux qui décident avec ces conditions d'utilisation qui peuvent changer du jour au lendemain, c'est les entreprises privées. Très bien, on dépend beaucoup trop de celles-ci, donc tant mieux et que la concurrence se fasse dans ce secteur-là particulièrement, parce que jusqu'à présent, les Américains ont été incapables de mettre des lois antitrust, ce qui fait qu'on a WhatsApp, qu'on a Facebook, qu'on a Instagram, tout ça appartient au même Mark Zuckerberg. Pareil pour Twitter, alors c'est le plus petit, mais parlons pas de Google. Alors là, c'est une surpuissance incroyable. Ils viennent de fermer la chaîne YouTube de Trump, qui était encore ouverte, malheureux, ils l'ont fermée parce que des fois qu'il appellera à la révolte.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des géants comme Elon Musk qui disent passer par Signal et non plus par WhatsApp. Donc parce qu'on a au sein du numérique.
Il va y avoir une guerre. Parce que c'est vrai que la position dominante, elle est anticoncurrentielle. Enfin, on a affaire à des monopoles qui sont dangereux pour les démocraties. Là, on s'en rend compte. Donc tant mieux. Moi, c'était mon coup de cœur. Allez voir ces nouveaux réseaux. Vous allez rire, vous allez pleurer parce qu'il y a quand même. Parleur, c'est pas très beau. C'est vrai qu'il n'y a pas de modération. Et là, par contre, c'est assez
grave. Vous allez m'expliquer comment ça marche.
Là, c'est quand même une mine de fake news. Attention, on ne peut pas comparer avec Signal.
C'est une messagerie. Donc vous voyez
Parleur, c'est l'équivalent de Twitter.
Parleur, oui.
Non, Signal, c'est une messagerie. Telegram, c'est un peu différent.
Nelly, je crois que vous vouliez réagir aussi à ça.
On va en reparler, mais c'est vrai que ce que ça a posé, c'est la question, effectivement, Donald Trump a fait le succès de Twitter. Et donc, on va en parler tout à l'heure parce que c'est la question que je me posais sur les médias au niveau de Finkielkraut, c'est-à-dire il y a une forme d'hypocrisie à vivre du buzz pendant des années, puis après censurer celui
modifier quelque chose. Je pense que c'est plus Twitter qui a fait le succès de Donald Trump que Donald Trump qui a fait le succès de Twitter. Twitter existait quand même, avait beaucoup de succès auparavant.
Ils ont surfé aussi sur ces
Ça a aussi aidé à faire se déplacer aussi le débat politique sur Twitter. C'est devenu une vraie plateforme d'échange. Ça a joué un rôle.
Nicolas Corato sur cette pluralité des plateformes.
Anecdote pour anecdote, moi je qui suis depuis longtemps sur Signal et sur Telegram, je me souviens que quand nous y étions, tout ça sentait un peu le soufre et de dire qu'on était sur Signal et Telegram. Et je vois arriver, parce que ces applications sont très bien faites, c'est-à-dire que vous voyez tous vos contacts s'abonnent les uns après les autres. Et donc, vous dites à ceux qui vous prenaient pour une barbouze il y a quelques années, finalement, bienvenue au club. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Et après, moi je suis comme Alexis Poulain, je suis pour la nationalisation des réseaux sociaux. sociaux. Voilà.
D'accord. Ah ouais, bon, parce que vous pensez quoi, que ça changerait quelque chose?
Non, non, je pense qu'à un moment, sérieusement, il va falloir que les pouvoirs publics, on attend définitivement l'application du Digital Act pour le décliner en Europe. Je ne sais pas si c'est une bonne méthode, mais en tout cas, c'est une méthode qui avance. Il faut que les pouvoirs publics reprennent. Internet n'est pas un Far West. Internet, ça peut être normé, ça peut être régulé, et ça peut être régulé également selon des lois territoriales. Internet, ça ne sont que des câbles, souvent sous-marins, qui sont gérés par la puissance publique, autorisé par la puissance publique. Donc, il y a un moment où la puissance publique doit réinvestir le champ des réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas de difficulté, quelles que soient les conditions générales d'utilisation des opérateurs privés. Ouais. Après tout, on attribue bien des fréquences 4G, 5G ou des fréquences de TNT aux chaînes. On pourrait très bien attribuer des fréquences ou des utilisations de nos câbles qui sont posés par les pouvoirs publics aux opérateurs des réseaux sociaux.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous dès lundi dans le 10h midi. Ne bougez surtout pas, on va revenir dans une poignée de minutes avec la chronique de Tariq, qui est revenu avec humour sur l'annonce du Premier ministre sur le couvre-feu généralisé à 18h. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Merci pour votre fidélité. Avant de retrouver la chronique de Tariq, on va s'écouter le dernier titre de Ben Mazoué, un titre sous forme d'exutoire dans lequel le chanteur se livre à cœur ouvert entre ses craintes de père et l'exigence envers lui-même. Voici Quand je marche sur Sud Radio.
Faut que j'envoie ces lettres, faut que je rappelle mon père d'abord, faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or, faut que je pense à l'été, trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai, et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu, elles vont me dire qu'elles m'ont déjà dit, je vais répondre oui mais que je sais plus, puis faudra que je pense à samedi, j'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres, et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre, pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis, déjà il y a 5 jours que demain, je la contacterai c'est certain, et que je lui donnerai mon avis, sur ce truc là qu'elle a sorti, un podcast sur les interdits, que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis il faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire, c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi, à qui en vouloir pour ça.
Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever.
À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappelle qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors, il y a l'amour des enfants, avec ça, tu manques plus de rien. Moi, je les aime tellement, justement, que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence? Pourquoi on souhaite être excellent? Quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent. Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent, souvent. Mais ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste,
de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Je vais me relever. Avancer, se rassembler, s'enflancher en jambes, le chantier des pensées. Les temps mêlés, je m'y collais sans délai. Mes soucis prenez-les, et l'angoisse tenez-la bien. Je vais shooter dedans comme elle vient. Faut que je marche, parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche, parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche, parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve quand je marche.
Quand je marche dans le meilleur de Sud Radio, le tout nouveau titre de Ben Mazoué, extrait de son nouvel album Paradis.
Allez, on va terminer en humour avec la chronique de Tariq. Vendredi, l'humoriste a réagi à la généralisation du couvre-feu à 18h et il en a profité pour donner son avis en humour sur le vaccin anti-Covid. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Bonjour Tariq, comment ça va? Vous
bonjour,
êtes où ce matin?
Ah là, bonjour Patrick, comment allez-vous?
C'est l'inconnu, de 8h30.
Hein. Ah, aujourd'hui, oui. J'ose pas mettre l'endroit dans lequel je suis. Hein.
Ah bon,
j'ai peur d'avoir des problèmes.
Allez-y, dites-nous.
Hier, après l'annonce du Premier ministre, je me suis dit, ça suffit, là, j'en pouvais plus. Ouais. Je me suis dit, moi aussi, je vais me rebeller. Alors, je savais pas quoi faire, j'ai réfléchi et j'ai regardé de l'autre côté de l'Atlantique. Mmh. Alors, comme les Américains, j'ai décidé de faire un geste fort, moi aussi.
Ah bon?
Alors, eux aussi, ils sont rentrés dans le Capitole, moi, je suis rentré au Sénat. Allez, vas-y, Pierre-Yves, mets la cam.
Ah bon?
Balance la cam.
Ah.
Balance, ouais, je sais, ça choque, je sais. Oh, ils ont l'homme bison. Oh, moi, la vérité, je sais même pas ce que je suis. Je vous dis
alors,
la vérité.
Pour les auditeurs qui n'ont pas,
qui
n'ont pas l'image, parce que vous êtes sur YouTube.
On dirait mon petit poney. Vous avez mon petit poney avec, avec la coiffure rose, là, avec les longs cheveux roses.
Je sais, mais ouais. Au Sénat. Oh, la costumerie, ils n'avaient pas bison. Ah, il m'a filmé le costume d'une petite indienne. Je sais pas ce que c'est. Putain, on ressemble à un travelot du Bois de Boulogne.
Oui.
Ce matin, j'ai failli me faire embarquer pour racolage sur la voie publique. Oh, en plus, mon geste fort, il sert à rien. Les 8h30, il n'y a personne. Un putain de fonctionnaire. Le Sénat revoit à 9h. Ah, je commence à me léger parce que je sais pas si, là, je vais pas vous montrer le bas du déguisement.
Bah non.
Oh, le string ficelle en cuir, c'est insupportable.
C'est devant derrière là.
Ah ouais, plus, le costume, il vibre. Imaginez le délire.
Bon. Allez, on y va. C'est parti. Non, il est fou.
Alors,
Allez.
Vous savez où je suis ou pas?
Allez, dans quel costume vous êtes allé? Dites-moi.
Bon, bah là, tout est fermé. Vous savez que le Covid, alors la seule que j'ai trouvée, elle est entre le Moulin Rouge et le Sexodrome. Oh, le sexy foonies. Oh, un lieu sympa, mais malsain. Oh, j'ai fait le tour. Attends, ouais. Là-bas, ils ont des sextoys, c'est pas humain. Oh, ils ont fait des moules sur des mammifères marins. Ouais, nous, les hommes, bientôt, on va plus être à la hauteur. Hein, je vous le dis, les gars. Oh, la dernière fois que j'ai vu des trucs comme ça, c'est dans une salle de torture dans Game of Thrones. Le truc, c'est dingue. Hein. Ah, c'est fini l'option vibrage unique.
Ah,
c'est
fini.
Ah, maintenant, ça aspire, ça donne l'heure. C'est géré par des applications. Et bientôt, le sexe, il va avoir une fonction drone et déposer les gosses à l'école. Alors, moi, je vous le dis. Eh, mais moi, je fous plus les pieds là-bas avec mon costume petite indienne sexy. Là, j'ai croisé un gars là, qui avait pris le cow-boy dans les rayons. Là. Cow-boy coquin. Croyez-moi, j'ai battu le record du 100 mètres. Hein. Ah, bon, bref, là, j'attends 9h, je vais leur dire.
Ah bon?
Ah ouais, c'est quoi ces histoires de couvre-feu à 18h?
Ouais, bah oui, je
c'est
sais.
Trop tôt, là. La prochaine étape, ils vont créer une brigade du sommeil, on devra tous dormir à 20h. Hein. Mm-hmm. Non, mais là, ça recule. Il n'y a pas de jeu de mots, je vous le dis tout de suite. Hein.
Ouais.
N'attendez pas à la fin. Ça pue le reconfinement à plein nez. Hein. Ouais. Bientôt, on aura moins d'heures de promenade qu'un détenu multirécidiviste en prison. Il est
pas
long, ce mot.
Dire.
Hein.
C'est pas facile à dire.
Et même hier, quand je l'écris, je me dis, il est long, ce mot. Après, je vous pose la question, faut-il aller en prison aujourd'hui? Ah, je sais pas. Et puis, leur histoire de vaccin, ça sent pas bon.
Mm.
Ah, non, apparemment, il n'y aurait pas assez pour tout le monde en ce moment. Mm. Bah, bravo. Hein. Quand Pfizer devait inonder le marché avec le Viagra, on n'a pas attendu. Hein. Mm. Il y en avait pour tout le monde. Ils ont distribué ça comme des Smarties. mon Patrick.
Ouais.
Putain,
c'est le meilleur client, Patrick.
Ah, ouais. J'ai chaud.
Non, mais alors, attendez.
C'est le client du mois.
Il fait chaud au Sénat quand même. Mais... Je suis en sueur. Putain, les boîtes pharmaceutiques, elles ont sens des priorités. Hein. La oui. devise, la baise. Le reste, on verra plus tard. Je vous laisse. Je sens que la cavalerie arrive avec mon petit déguisement de Pocahontas brésilienne. Je vais pas faire long feu. Bon, à la semaine prochaine, les amis.
Et parlez surtout pas de nous hein, quand on viendra vous chercher. Hein. On vous connaît pas. On sait pas qui vous êtes.
Venez me chercher en garde à vue.
Mais vous allez faire un discours à la tribune ou pas du Sénat?
Là, je vais me présenter comme ça, leur dire ce que je pense. Hein.
Il y a un petit côté, je sais pas. Y a...
Le président du Sénat s'appelle Gérard.
Ouais.
Gérard Larcher, si vous le croisez.
Je vais l'attendre sous son bureau, Gérard.
Mais je me dis que Roselyne Bachelot, qui adore le rose, peut-être elle pourrait vous l'emprunter.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Humoriste Tariq qui vous donne rendez-vous tous les vendredis à 8h20 dans le Grand Matin, Sud Radio. Merci à tous d'avoir été avec nous dans le meilleur de Sud Radio. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et respectez le couvre-feu. Excellent week-end à tous, à l'écoute de Sud Radio.